la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire. Par oui dire.
Quel prix faut-il payer pour être soi ?
Philippe Besson, dans son tout dernier livre « Une pension en Italie » publié chez Julliard, fait l'anamnèse prudente, patiente, de la révélation de l'homosexualité de Paul, son grand-père, un été en Italie, en Toscane, au début des années 60. La déflagration familiale sera fulgurante. C'est le premier temps d'une soirée consacrée au secret de famille. Pour commencer, j'aurais voulu qu'on reparte avant votre scène initiale où vous êtes avec votre mère en train de prendre un thé dans une véranda. Qu'est-ce qui vous semble anormal dans cette histoire qu'on vous raconte ? Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas à la version officielle de votre grand-mère ?
Parce que ça vient d'années de non-dit et de silence. Ça vient d'années où, quand vous posez des questions, on ne vous répond pas. Quand
Philippe Besson.
Vous posez des questions, on est évasif, on élude, on regarde ailleurs. Ça vient d'années où vous feuilletez les albums de famille et vous comprenez bien qu'il y a des ombres dans l'album et des personnes manquantes. Et donc, à un moment, vous vous dites, c'est quand même de là d'où je viens, c'est quand même mes origines. Donc, vous vous dites, il faut que j'en sache davantage. Et en même temps, voilà, on devine la pudeur, on devine l'embarras, la gêne, donc on n'ose pas aller contre. On respecte la pudeur des gens, on est toujours décontenancé par leur maladresse. Donc on prend le temps nécessaire et puis à un moment, le temps arrive. Le temps se fait pour raconter les histoires, pour dire enfin.
Alors il y a un rapport à la langue qui est très beau, puisque votre grand-père est d'origine italienne par sa mère, il devient professeur d'italien, il apprend l'italien à sa fille, donc votre mère, qui elle va oublier l'italien au moment où le corps n'est plus là. Comme si la langue c'était aussi le continent inconscient où s'incarnent des choses.
Oui, c'était important pour moi. D'abord, Paul, effectivement, le personnage à la recherche duquel le narrateur part, on va dire ça comme ça, il est professeur d'italien, parce que lui-même est d'ascendance italienne, et il a ce goût pour cette langue. En plus, cette famille habite à Nice, donc de l'autre côté de la frontière, ce qui est quand même pas tout à fait rien. On sait qu'il y a eu un gros exil d'Italiens vers cette partie-là de la France. Certains sont repartis, d'autres sont restés. Et Paul, il est d'ailleurs très heureux d'emmener sa petite famille en vacances en Italie, en Toscane, parce que c'est pour lui le moyen d'abord de parler cette langue qui est la sienne, d'essayer de la communiquer à ses filles, puis de faire aussi un peu son malin, de faire son voilà, en disant, vous voyez, moi je parle. Et d'ailleurs Suzanne, la mère du narrateur, elle regarde ça avec admiration, en se disant je vois mon père faire usage de cette langue indépendamment de son univers professionnel. Tout d'un coup ça devient une langue parlée, une langue réelle, une langue quotidienne, une langue de tous les jours. On commande le café, on commande à manger comme ça, on se balade dans les rues, on n'est pas des étrangers d'une certaine manière, on est comme intégrés. Et puis, effectivement, quand l'histoire advient, que la bascule se fait, que la famille se retrouve mise à l'épreuve et que le retour en France est effectué, tout d'un coup, la mère, Suzanne, elle sombre dans une forme de mutisme, ou en tout cas de mutisme sur cette partie-là de sa vie. Et donc, ça se traduit par la disparition de la langue, par l'idée qu'elle ne connaît plus les mots, que parce qu'elle a suivi des cours avec son père et qu'elle est la seule de la famille à comprendre un peu ce qui se dit, et tout d'un coup, vous ne comprenez plus. Moi, je crois à ça, cette idée que tout d'un coup, vous, quand vous quittez les endroits et que vous les quittez un peu brutalement, vous vous détachez de ça. Pour l'avoir vécu sur un autre plan, j'ai passé beaucoup de temps, une époque de ma vie, en Argentine. Je parlais plutôt très très bien l'espagnol, et en tout cas je le comprenais magnifiquement. Et je suis revenu en France dans des conditions un peu particulières. Et c'est comme si j'étais absolument incapable aujourd'hui de prononcer le moindre mot d'espagnol. Alors je le comprends toujours quand je l'entends parler autour de moi, mais je ne saurais pas articuler une phrase aujourd'hui. Comme si il y avait un blocage, comme si dans la gorge et dans la tête, les mots ne pouvaient plus venir. Et je crois à ça. Et donc, ça veut dire quelque chose aussi. Et donc, ce livre, c'est aussi la recherche de la langue initiale, de la langue originelle.
Vous la parlez, vous, cette langue ?
Je la comprends très bien, en fait. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que vous me mettez en Italie, je n'ai aucun problème. Je comprends toutes les conversations et je la baragouine, on va dire. C'est-à-dire, je sais me faire comprendre. Donc, ça va à peu près, oui.
Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
Ce qu'il y a peut-être de très étonnant, c'est l'amour qui lie votre mère ou la mère du narrateur, Suzanne, à son père. À beaucoup d'endroits, hein, elle comprend avant tout le monde, elle repère des signes, elle voit bien qu'il y a une complicité entre lui et ce bel homme qui a l'air de lui avoir jeté un sort. Et puis elle ne cherchera pas à le revoir malgré une lettre, et vous partirez sur l'indice de cette lettre. Pourquoi ? Est-ce que vous l'avez interrogé là-dessus ou bien est-ce que c'était trop intime ?
Alors, d'abord, c'est vrai qu'il y a un lien singulier entre le père et la fille. Ça, c'est très, très clair, c'est très net, c'est évident et qui a subsisté d'ailleurs au fond jusqu'au bout. Mais c'est vrai que la mère, Suzanne, la fille de Paul, elle est celle qui effectivement voit les choses, repère des indices, repère des signaux faibles, repère des regards échangés, une gêne, un embarras. Mais en même temps, elle sait pas mettre les mots sur ça. C'est ça qui m'intéresse aussi parce que elle a pas l'imagination nécessaire. Et puis, on est à une époque, le milieu des années 60, vous ne pouvez pas mettre des mots sur ça. Si vous arriviez à vous douter de quelque chose, vous ne pouvez pas imaginer que c'est ça. Vous ne pouvez pas vous le concevoir. Voilà. Je pense qu'elle vit avec ça, avec l'idée qu'il y avait des indices, mais qu'elle n'a pas su leur donner leur véritable signification. Et puis oui, il y a l'idée qu'il y a une lettre, mais en même temps, le père, il a pris une décision. Et la famille, elle a explosé. Et Suzanne, elle respecte au fond cette décision-là. Et puis, il y a aussi un ultimatum qui a été posé par Gabi, la mère. Il y a un ultimatum qui est « Nous n'en parlerons jamais. Votre père est mort. » C'est ce qu'elle dit au monde extérieur. Quand vous êtes une jeune fille de 18 ans et que votre mère vous dit « Nous n'en parlerons jamais. » Et c'est posé comme une sentence, comme une espèce d'obligation morale à laquelle vous devez vous tenir. Quand on vous dit autour, c'est fini, il n'est plus là, il n'est plus dans le décor, il est mort, vous vous y tenez, vous obéissez d'une certaine manière. Et puis après, Suzanne, elle est embarquée dans sa propre vie. Elle a des enfants, elle va avoir deux fils, elle se marie, elle a deux fils, elle travaille. Elle est très loin de cet endroit-là puisqu'elle s'est exilée en Charente. Donc la question est réglée. Puis aujourd'hui, évidemment, on se dit que c'est facile de retrouver des gens, mais à l'époque, pas du tout. Donc elle accepte la disparition d'une certaine manière, elle accepte ça, elle finit par s'y résoudre. Et c'est simplement parce que son fils, des années plus tard, lui dit « Mais quand même, c'est quand même curieux de ne pas vouloir chercher à savoir. » Je pense qu'encore une fois, c'est une autre époque, on ne cherchait pas à savoir.
Qu'est-ce qu'elle vous répond quand vous dites « c'est quand même curieux, on devrait essayer de savoir »
Je pense qu'elle, là encore, elle élude, parce que je pense que c'est une espèce de douleur secrète et silencieuse. Je pense qu'au fond d'elle-même, elle sait bien qu'elle aurait dû chercher, qu'elle aurait dû aller peut-être sur les traces d'eux, qu'elle aurait pu chercher à comprendre, et qu'elle sait bien qu'elle ne l'a pas fait. Donc je pense qu'il y a une forme de culpabilité chez elle. C'est terrible de vivre avec la culpabilité, de vivre avec une forme de regret ou de remords. Et donc elle s'est arrangée de cette culpabilité par le silence et par une autre vie, par une vie ailleurs, par une vie... Voilà, bon. Et tout d'un coup, son fils la renvoie à ça, à sa propre culpabilité, en tout cas à quelque chose qui la ronge. Et en même temps, c'est aussi ça qui permettrait de la libérer. C'est ça qui fait qu'à un moment, quand on va jusqu'à la fin du livre, on se dit que oui, elle, d'une certaine manière, elle est libérée de quelque chose, d'un poids qui l'a écrasée.
Au niveau des traces, il y a deux photos, et notamment la photo du mariage. Gabi n'a pas osé aller jusque-là, jusqu'à faire disparaître ce moment-là de sa vie.
Oui, si tu étais sacrilège, je pense. Oui, il y a un moment, ça, ça paraît très compliqué quand même. Mais il reste cette trace-là. Et puis c'est parce que aussi, cette trace, peut-être pour Gabi, c'était l'idée que il y a eu des moments heureux quand même dans cette histoire-là aussi. Parce que Paul et Gabi, c'est pas un faux couple, c'est un vrai couple. Je pense que Paul a aimé Gabi, que Gabi a aimé follement Paul, qu'il est allé vers elle parce qu'il avait envie de construire une vie, vraiment, parce qu'il avait envie d'une femme et d'enfants, et qu'il le fait avec sincérité. Alors, il y a sans doute quelque chose en lui qui le ronge, mais il y va parce qu'il est convaincu que c'est ça qu'il doit faire aussi. Et puis, il a vu cette petite postière, voilà, et il va acheter des timbres tous les jours, et il lui sourit, elle lui sourit, et ce sera la seule femme de sa vie. Et donc, il y a eu une histoire d'amour au départ, quand même, dans ce couple-là, entre Paul et Gabi. Donc, il faut garder une trace de ça qui a existé. Puis, il y a des enfants, il y a deux filles, il y a Suzanne Colette. Donc, moi, je ne suis pas complètement surpris que la photo ait été gardée. C'est l'après qui est terrible. Mais les jeunes années, elles ont été sans doute belles. Alors, évidemment, elles étaient entachées peut-être de mensonges, peut-être de dissimulation, peut-être de censure. Mais en tout cas, elles ont été là.
Oui, vous parlez de honte et de déni, en vous basant aussi sur des témoignages de l'époque.
Oui, parce qu'il faut comprendre que ces hommes-là, qui étaient partagés, qui se sentaient des désirs secrets, qui se sentaient des inclinations qu'il leur fallait réprimer, qui comprenaient que leurs désirs les portaient ailleurs vers leurs semblables, qui pourtant étaient mariés, avaient des enfants, ces gens-là, ils se taisaient, ils s'auto-censuraient, ils ne voulaient pas croire ce qu'ils comprenaient d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas penser que c'était ça.
J'ai conscience de ce qu'on m'objectera. Comment puis-je savoir ou croire que je sais ce qui se jouait dans la tête de Paul? Il n'a jamais dérapé, jamais ouvertement parlé non plus. D'accord, je spécule. Et pas tout à fait néanmoins. On est renseigné désormais, documenté sur la lutte muette, incessante, cruelle, que tant d'hommes, et surtout ceux de cette génération et de celle qui l'a suivie, ont mené contre leur propre nature. Beaucoup ont témoigné. Ils ont raconté la petite voix intérieure, les affres, l'angoisse qui dévore, la terreur permanente, la terreur de regarder un homme et d'être attiré par lui, celle d'être repéré, reconnu, toutes les interdictions qui se sont imposées, les normes auxquelles ils ont cédé, les fantasmes érotiques qui les ont rattrapés, la rivière souterraine qui a serpenté, la frustration devenue insupportable, l'indétermination peu à peu transformée en certitude et cet espoir qui finit par s'imposer, avoir la force de choisir l'objet de son désir, craindre de ne jamais l'avoir, craindre de la voir un jour.
Puis une fois qu'ils finissaient par admettre la vérité, ils en avaient honte. Ils en avaient honte parce qu'ils savaient bien que c'était scandaleux, que si c'était révélé, on les regarderait comme des gens pas normaux, ou peut-être des monstres, des gens, voilà, bon, déviants. Et donc il leur fallait se taire. Et puis je rappelle que l'homosexualité, dans les années 60, elle était encore pénalisée, parce que c'était pénalisé depuis longtemps. Le régime de Vichy, le sinistre régime du maréchal Pétain, avait aggravé encore la criminalisation de l'homosexualité. Et jusqu'en 1982, en France...
J'allais vous poser la question, jusque quand ?
Jusqu'en 1982, en France, l'homosexualité est pénalisée. Et je me permets de rappeler que jusqu'en 1990, elle est considérée, l'homosexualité, par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme une maladie mentale. Elle est rangée dans les maladies mentales jusqu'en 1990. D'accord ? Bon. Donc nous en sommes là. Donc ces hommes qui se sentent évidemment ces inclinations, vous imaginez dans quel contexte ils évoluent. Je cite un épisode dans le livre d'un type qui est emporté dans un fourgon de gendarmerie et par des policiers et qui sera traduit en justice, qui va passer un peu de temps en prison parce qu'il a été surpris avec un autre homme. Donc c'est ça la réalité. Donc évidemment, il y a du déni, de la honte, mais il y a aussi de la peur. Et puis il y a aussi, je crois, comme je le disais, une volonté sincère chez Paul de faire réussir sa famille, de faire que ça marche. Vraiment, il a envie que ça marche. Aussi. Donc il est tiraillé, il y a ces espèces de contradictions intimes et de choix sacrificiels et de dilemmes moraux qui le traversent. C'est un livre sur tout ça. Et à la fin, c'est la question fondamentale qui est posée dans le livre, c'est quel prix faut-il payer pour être soi ? Quel prix faut-il payer pour être soi ? Et à quel choix est-on confronté ? Soit on choisit l'ordre, l'équilibre, le destin prévisible, il vous arrivera rien, mais peut-être que vous aurez une vie harmonieuse. Soit vous choisissez d'assumer qui vous êtes, avec tous les risques que ça comporte. Vous choisissez la liberté, la foudre, l'amour, l'aventure, avec toutes les conséquences que ça emporte, avec tous les dégâts collatéraux que ça provoque. Et voilà, c'est ça le dilemme dans lequel il se trouve, Paul. Il sait bien qu'il a intérêt soit à continuer de se censurer, ou s'il ne se censure plus, ça va créer un séisme, un cataclysme. C'est pour ça que, d'ailleurs, Suzanne dit, quand elle voit Sandro apparaître la première fois, elle dit, j'essaie d'imaginer, est-ce qu'on peut voir la prémonition de la catastrophe quand il apparaît ? Et c'est ça, c'est quand Sandro apparaît, c'est le cataclysme en marche.
Beaucoup de pressentiments hein, du côté de Suzanne, même du côté de Gabi, qui a ces moments d'évanouissement, oui. Qui a donc quelque part, elle sent aussi quelque chose qui se trame, on peut dire ça ?
Oui, mais je crois qu'on a tous ça, une espèce de prémonition, de pressentiment, de sentiment confus de ce qui survient. J'avais raconté ça dans un autre livre qui s'appelle « Un soir d'été », vous aviez des jeunes gens comme ça qui étaient très insouciants, 18 ans, c'était mon histoire. Nous étions dans l'île de Ré et il va se passer un événement tragique, la disparition de l'un d'entre nous, et personne ne la voit venir. Tous ces grands dadais de 18 ans sont embarqués dans leur libido et dans leur paresse des vacances. Mais il y a là une jeune fille de 12 ans qui est la petite sœur des personnages du livre et qui, elle, a tout compris, a tout senti, a tout vu. Comme la pitié, elle voit, elle sent, elle, et elle dit, elle essaie de dire, vous avez compris qu'il va se passer quelque chose, vous avez compris que c'est pas normal et personne ne l'écoute. Et je crois à ça, je crois qu'au fond, on a en soi souvent des espèces d'intuitions. Parfois on les écoute et parfois pas du tout. Et parfois après coup, on se dit, mais en fait oui, j'avais compris que c'était ça, mais je n'ai pas donné ce sens-là aux choses. Et donc oui, je pense que Gabi, elle devine qu'il y a quelque chose de pas normal dans son couple. Il y a plein d'indices qui lui laissent comprendre que son couple ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner quand même. Leur vie sexuelle n'est pas très épanouie, etc. Bon. Et la fille, Suzanne, elle voit bien qu'il se passe quelque chose là dans la pension qui n'est peut-être pas ordinaire. Son père est quelqu'un de très organisé, très méthodique. D'ailleurs, il a organisé ses vacances en Italie de manière très, très, très militaire, presque, en disant on va visiter les musées, on va visiter des églises, on sera ce jour-là à Florence, ce jour-là à Sienne, ce jour-là à San Gimignano. Bon, il y a quelque chose de très organisé. Et puis tout d'un coup, ça se détraque. D'abord, il va être obligé de garder la chambre pendant plusieurs jours. Donc, il est enfermé dans une chambre, dans cette pension, derrière des persiennes. Et quand elle le récupère le soir, elle voit bien qu'il est un peu troublé, cet homme-là. Et c'est pas normal, le trouble chez son père. Parce que c'est pas un homme troublé, son père. C'est un homme droit. C'est un homme sûr. Et tout d'un coup, il y a ça. Elle sent que c'est pas normal, ce trouble. Pour elle, son père est un roc. Et elle voit une pierre qui se fissure. Elle voit une armure qui se fend. Elle sent que c'est pas normal, mais elle n'est pas capable de donner le sens de ça, mais elle voit bien qu'il y a une armure qui se fend.
Et puis, vous évoquez cette pension, il y a toute l'ambiance italienne autour de la pension, une douceur, une gaieté de vie aussi, il y a quelque chose de très heureux, malgré tout, qui se passe parce que c'est cette pension, parce que c'est l'Italie.
Alors d'abord, l'Italie, c'était extrêmement important parce que c'est un territoire qui m'est très familier, très intime, que j'aime énormément. J'avais déjà écrit plusieurs livres qui se passaient en Italie. Un garçon en Italie en 2003, ça se passait déjà à Florence. De là, on voit la mer, c'était aussi un livre qui se passait en Toscane, du côté de Livourne. Dans ce réseau des adieux, on passait par Venise. Bon, j'ai un très fort tropisme italien. J'ai découvert l'Italie à 20 ans et ça a été un ébahissement, un émerveillement qui m'est resté. Voilà, j'y retourne souvent. J'y serai d'ailleurs la semaine prochaine. Donc voilà, il y a cette idée très forte chez moi et donc j'avais envie d'y revenir. San Donato in Poggio, qui est le petit village à équidistance de Florence et de Sienne, c'est un village que je connais vraiment très bien. Je suis allé à plusieurs reprises.
Existe toujours la pension ?
Non, la pension n'existe plus, hélas, non. Et l'idée, c'est que je voulais raconter les champs d'oliviers, je voulais raconter les allées bordées de cyprès, je voulais raconter la pierre blonde, je voulais raconter les villages perchés en haut des collines, je voulais raconter, quand on est à Florence, les musées, les églises, la pierre noire, les gargouilles, bon voilà. Et puis quand vous entrez dans les églises, dans les musées, vous levez la tête et vous tombez sur une peinture de maître, enfin, c'est extraordinaire. Bon, j'avais besoin que ça soit un vrai personnage de l'histoire. Par ailleurs, on est dans les années 60 en Italie, et les années 60, comme on est en France, sont les années de l'éveil, de l'émancipation, de l'ouverture. C'est-à-dire qu'on sort d'années compliquées, il y a eu la guerre, il y a eu la reconstruction, et là, tout d'un coup, c'est le cinéma de Fellini, de Vittorio De Sica, c'est Sofia Loren, c'est Marcello Mastroianni, c'est toute cette chose qui émerge à ce moment-là. C'est les années du miracle économique. Bon, après, l'Italie va tomber dans ce qu'on appelle les années sombres, 70-80, mais en tout cas, les années 60, il y a ça, c'est un moment de bascule aussi, et donc elle correspondent à ce que vit Paul d'une certaine manière. Il y a un conflit, une contradiction entre une époque très corsetée et une époque qui s'ouvre. Voilà, bon. Et donc oui, je voulais raconter ça par le menu et je voulais qu'on sente que c'est une Italie vibrante, vivante, sensuelle. C'est un livre, je crois, plein de sensorialité et de sensualité. Il faut qu'on soit avec eux dans la pension. Et après, ces pensions, elles étaient merveilleuses parce qu'il y avait peu de chambres, il y avait 7, 8, 9, 10 chambres et vous vous retrouviez, j'avais fait ça dans Paris-Briançon aussi, mais vous retrouviez avec des inconnus avec qui vous alliez partager quand même le gîte et le couvert pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines et vous vous mettez à converser avec une dame belge, avec un peintre français, avec une famille napolitaine un peu cinglée, avec des Siciliens amoureux. Bon, j'aime raconter ça, ces assemblées hétéroclites qui fabriquent une familiarité d'un coup, en tout cas une proximité parce que vous allez passer du temps avec eux. Et puis il y avait ça, je me souviens à Florence pendant longtemps sur la Piazza della Signoria, il y avait une enseigne lumineuse qui disait Pensione Pendini. C'était joli, je rêvais de ce qu'il y avait dans cette pension. Bon, moi-même je suis allé dans les pensions en Italie, j'aime beaucoup ces endroits-là. Mais encore une fois parce que c'est des endroits de rencontres improbables et puis vous avez voilà les chambres avec des persiennes, vous avez un carrelage frais au sol et vous allez tous bouffer ensemble à midi ou le soir
et c'est très bon.
Et c'est souvent très bon, exactement. Je voulais qu'on parle de bouffe aussi. Parce que c'est sensuel la bouffe. Et donc, voilà, il y a Sandro qui prépare, et c'est pas un hasard, si c'est lui qui prépare à manger, si c'est lui qui apporte les victuailles, parce que c'est lui aussi qui apporte cette sensualité-là de la nourriture aussi. Et c'est sans doute pas un hasard. Ça passe aussi par là, ouais.
Qu'est-ce que vous saviez de Sandro, justement ? Est-ce que votre mère vous en a parlé ?
Très peu, je savais presque rien. Je savais ce qui s'était passé, ce qui s'était vaguement tramé. Mais après, il y avait encore une fois comme un trou noir. Il y avait comme la volonté d'occulter. Puis, dans tous les cas, il y aurait eu une mémoire, comment dirais-je, une mémoire incertaine quand les choses remontent à si loin. De quoi vous souvenez-vous ? C'est ça aussi que je voulais raconter ça. Pour l'avoir vécu moi-même, quand j'écris « Arrête avec tes mensonges » en 2016 sur un événement qui m'est arrivé à moi personnellement, directement, en 1984, 30 ans plus tôt, je plonge dans ma mémoire et j'ai l'impression de revoir des choses de manière très exacte, très précise. Je revois des visages, puis il y en a d'autres qui sont totalement flous, qui ne sont que des silhouettes. Il y a des situations qui me reviennent, qui sont très nettes, que je revois précisément. Puis il y en a d'autres qui sont très incertaines, où je me dis, est-ce que ça s'est passé comme ça ou autrement ? Quand j'écris un soir d'été, on en parlait sur cet épisode dans l'île de Ré, et que je vais le confronter à mes amis de l'époque, je dis, tu te souviens, ça s'est passé comme ça ? Et on me répond, mais pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était à tel endroit et pas à celui-là. C'était pas ce jour-là, mais un autre. Il s'appelait pas comme ça, mais comme ça. Et donc, vous vous dites, mais non, tu te trompes. Et l'un de nous deux a raison. Mais je ne sais pas lequel. Ou peut-être que nous avons tous les deux raison, ou tous les deux tort. Et donc, cette question de la mémoire, elle est très intéressante, parce qu'il y a une mémoire exacte, mais il y a une mémoire, évidemment, recomposée, à la faveur du temps ou de la honte ou du regret. Puis il y a une mémoire que vous inventez. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut remplir les blancs. Et c'était ça que je voulais faire aussi dans le livre, c'est que le narrateur, moi, le narrateur, on invite le lecteur à un voyage. C'est-à-dire on dit « je mène une enquête ». Parce que c'est ça qui se passe, en fait. Il faut dire que dans le livre, c'est le romancier que je suis qui, des années après, mène une enquête. Bon. Et je vais vous dire, il y a des choses... je sais que c'est ça. Il y a des témoins que je cherche. Puis il y a des blancs. Il y a des blancs, il faut bien que je les remplisse, les blancs. Ou il y a des trous noirs, je ne sais pas ce qu'il y a dans le trou noir. Et donc, à un moment, j'invente. Et je dis au lecteur, là, vous voyez, je vais inventer. Parce que je ne sais pas. Je crois que ça s'est passé comme ça, mais je ne suis pas sûr que ça soit passé comme ça. Et puis après, je rajoute... Ou peut-être que si, parce que quand même, vous allez voir, il y a des trucs que j'ai pu vérifier après. Et donc, il y a un jeu qui se passe avec le lecteur qui est très important pour moi, parce qu'il faut qu'il participe à l'enquête, il faut qu'il soit sur les traces de Paul des années après. Mais effectivement, il y a ce que vous êtes sûr de voir, ce dont vous êtes certain que ça a existé, et puis ce qu'il vous faut reconstituer, inventer, parce qu'il vous manque des éléments. Et moi, je ne suis pas policier, hein, j'écris des livres. Et donc, ça m'intéressait aussi, ça, cette part de fiction nécessaire, cette part de roman très importante qu'il y a aussi dans le livre, parce que moi, j'ai toujours aimé jouer avec cette ligne de crête entre la fiction et l'autofiction. Quand j'écris « Arrête avec tes mensonges », qui est un épisode qui m'est arrivé à moi, qui est constitutif de l'homme que je suis devenu, il y a évidemment des choses parfaitement inventées, totalement imaginaires, totalement fictionnelles que je rajoute dans le livre, parce que c'est nécessaire au récit, ou parce que je ne me souviens pas, ou parce que je me souviens mal, ou parce que je ne veux pas raconter comme ça, et que la pudeur m'interdit de raconter les choses comme ça, donc je les décale, je les déplace, je les déforme, et c'est important. Et aussi parce que j'ai cette idée depuis le début, depuis que j'écris, depuis 25 ans, que quand vous écrivez quelque chose de personnel, il faut que ça puisse être partagé avec les autres. Donc il ne faut pas seulement faire un récit autobiographique, ça n'a aucun intérêt, un récit autobiographique. Il faut que vous fassiez une histoire qui prétend une forme d'universalité. Donc il faut que ça déborde ses propres frontières pour que les gens puissent s'y reconnaître eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous racontez quelque chose et les gens se disent « mais moi aussi j'ai un secret de famille. Mais moi aussi je suis allé en Italie. Mais moi aussi je suis consumé par le regret. » Mais moi aussi j'ai fait les mauvais choix à un moment dans ma vie. Mais moi aussi j'ai aimé quelqu'un et peut-être j'aurais dû suivre cette personne et je ne l'ai pas suivi. Vous voyez, c'est la fameuse scène sur la route de Madison, que j'évoque d'ailleurs dans le livre. On se souvient tous de ça, la fin du film. Meryl Streep est dans la voiture battue de pluie, la main sur la poignée de la portière, et elle a Clint Eastwood qui s'approche de la voiture et qui d'un seul regard lui dit « suis-moi, suis-moi et nous allons vivre une vie heureuse, aventureuse, amoureuse, fulgurante ». Et elle attend son mari qui doit revenir dans la voiture. Et son mari, s'il revient, c'est une vie d'ordre établi, une vie rassurante, une vie harmonieuse, une vie équilibrée. Et en fait, elle doit choisir entre ces deux vies-là. Et ça se tient dans quoi? Dans cette main sur la poignée de la portière. Si vous baissez la poignée, vous choisissez une vie. Si vous laissez la poignée comme elle est, vous en choisissez une autre. Et c'est juste ça. Cet instant va décider de tout ce que sera la suite. Et on était moins... Quand je regardais ce film-là, je me disais « mais baisse la poignée, vas-y, suis-le, rejoins-le ». Et puis il y avait d'autres gens qui disaient « mais non, ne va pas envoyer paître tout ton bonheur qui existe aujourd'hui pour une aventure ».
For a split second, the thought crossed my mind that he really didn't want me, that it was easy to walk away.
c'est quel choix vous faites. Et au fond, dans nos vies, on a tous été confrontés à ça. L'idée qu'on a ou pas baissé la poignée. Moi, je suis consumé par ça. Moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai eu à baisser la poignée et je ne l'ai pas baissé.
Robert leaned over as if to get something from the glove box. 8 days ago, he'd done that. And his arm had brushed across my leg. A week ago, I'd been in Des Moines buying a new dress.
A long way from home, Washington State. I'll bet it's that photographer they've been talking about over at the cafe. Boy, what's he waiting for?
Comment Sandro vous apparaît la première fois? Comment vous l'imaginez?
D'abord, je ne l'imagine pas. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'imaginer que vous allez...
Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ce moment-là de l'apparition, comment est-ce que vous la traitez?
C'est une surprise absolue, c'est une stupéfaction complète. Je ne m'y attends pas. Et je ne peux pas imaginer que ça va se produire. J'y vais en pensant que peut-être ça peut, mais que voilà, la probabilité quand même est très 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 faible. Parce que quand même, quand l'enquête est menée au départ, vous tirez un fil qui est un fil extrêmement ténu. Une lettre, une adresse, la possibilité de... Vous êtes des années après, donc la possibilité qu'il arrive quelque chose est quand même très faible. Donc vous y allez porté par un secret espoir, par un fol espoir, mais... Bon, puis tout d'un coup, des choses se vérifient. Tout d'un coup, vous êtes là devant une réalité. Et donc, c'est d'abord la stupéfaction qui l'emporte, et puis après, comment dirais-je, vous comprenez. Vous comprenez ce qui s'est passé. Ouais.
D'ailleurs, il y a cette scène très subtile de dialogue entre Sandro et Paul, où il lui pose la question « Comment as-tu su ?» Il dit « Je l'ai vu, il y a eu un regard. Oui. » Donc c'est très, très, très léger, ce qu'il peut détecter, mais le regard, il l'a perçu.
Je crois que ça, c'est une vérité. Pour l'avoir, moi, pour le coup, expérimenté, ça, je vois bien. C'est-à-dire que, tout d'un coup, vous êtes capable de repérer chez l'autre quelque chose qu'il cache.
Et qu'il ne sait pas.
Et qu'il ne sait pas lui-même, parfois. Mais vous êtes capable de voir l'intimité censurée. Vous êtes capable de voir ce qui émane des gens malgré eux. Ce qu'ils portent, parfois sans le savoir, ou en essayant de le dissimuler le plus possible. Vous voyez leurs mensonges, vous voyez leur maladresse, vous voyez leur déni, vous voyez leur fragilité, vous voyez leur inconfort, et vous voyez aussi surtout leur désir. Je pense que Sandro repère, plus que la maladresse, plus que la fragilité, plus que ça, c'est les 3 secondes de trop. C'est-à-dire que tout d'un coup, Paul regarde Sandro 3 secondes de trop. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de désir, vous ne vous attardez pas sur cette personne-là. Si vous vous attardez sur cette personne-là, c'est qu'il est en train de se produire quelque chose. C'est parce que votre regard tient qu'il se passe quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est que tout d'un coup, vous allez avoir... C'est comme ça dans les histoires d'amour qui commencent, quelles qu'elles soient. Comment vous comprenez que l'autre vous aime ? C'est parce qu'il s'attarde, c'est parce qu'il a envie d'être encore un peu avec vous, c'est parce qu'il ne sait pas vous lâcher ou... Bon. Et vous-même, vous faites ça. Quand vous voulez dire à quelqu'un que vous tenez à cette personne, vous insistez sur le regard, vous insistez le regard. Vous ne lâchez pas la main, vous essayez de rajouter juste un petit truc pour dire « t'as bien compris quelle est la nature de mes sentiments ». Bon, parce qu'il faut dire et que vous n'arrivez pas à verbaliser, vous n'arrivez pas à oraliser, vous ne pouvez pas dire les mots. Puis vous n'êtes pas sûr que c'est partagé. Avec un regard un tout petit peu qui insiste, vous vous dites, ben, l'autre va peut-être comprendre, et en même temps, si l'autre comprend et qu'il ne veut pas de ce regard, bon, ben, je me retire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ça se joue toujours sur ça. 2, 3, 4 secondes de trop. 2, 3, 4 secondes de plus. Et ça change ou pas la donne.
Et puis, il y a cette scène invraisemblable qui est la scène de rupture, qu'on visualise très très bien, hein, qui se passe pas à Florence, mais au-dessus de Florence, dans un champ de coquelicots. Et c'est la tragédie absolue, en fait. C'est d'une violence folle. Mais en même temps, on les voit de loin, on n'entend pas ce qu'ils disent.
Oui, Oui, ça j'y tenais, je voulais le raconter comme ça. Alors, il y avait aussi un écho à un livre que j'évoque dans le livre qui est Chambre avec vue sur l'Arno, le titre du livre de Forster, l'écrivain britannique, qui est devenu ensuite ce film de James Ivory qui s'appelle Chambre avec vue, A Room with a View. Et c'est vrai que dans A Room with a View, dans Chambre avec vue, il y a cette scène sur les hauteurs de Florence, à Fiesole, dans un champ de coquelicots, où Lucie, l'héroïne, voit sa vie basculer, parce que Lucie, l'héroïne, est une jeune femme de l'aristocratie britannique, très cadenassée, qui est promise à un beau mariage avec un aristocrate très coincée, tout va bien et elle part donc en vacances pendant quelques jours avec son chaperon qui est sa cousine Florence et là elle va rencontrer un jeune homme qui est une sorte de poète, un type très anticonventionnel, très non conventionnel et qui va l'embrasser fougueusement dans ce champ de coquelicots. Et ce baiser dans le champ de coquelicots change sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment elle se dit donc qu'il y a la possibilité de vivre son désir, de vivre quelque chose qui ne soit pas attendu, prévisible, programmé, ennuyeux, on peut vibrer alors, on peut donc ressentir quelque chose dans son corps de très différent. Bon, on n'est pas obligé d'être ce que les autres attendent de nous. C'est une révélation, le baiser dans le champ de coquelicots à Fiesole. Et la scène est reproduite là dans le livre, c'est qu'effectivement ça se passe à Fiesole aussi dans ce champ. Mais il ne fallait pas qu'on entende ce qu'ils se disent. C'est-à-dire que les deux sont face à face. Là, ce n'est pas une scène de communion, c'est une scène effectivement de rupture. Mais c'est ça, c'est que la scène est vue de loin par les yeux de Suzanne et qui comprend évidemment que quelque chose se joue là. Qu'une distance se fait et qui va être une distance irrémédiable, qui ne sera plus jamais comblée. Parce que juste après, Gabi dit « Nous rentrons. C'est fini. »
Charlotte, please stay. Mr. Emerson, go out of this house and don't come back into it again as long as I live here.
I can't.
No discussion. Go, please. I don't want to call him Mr. Vyse.
You don't mean you're going to marry that man?
You're being ridiculous.
Oh, I would have held back if your Cecil had been a different person. But he's the sort who can't know anyone intimately, least of all a woman. He doesn't know what a woman is. He wants you for a possession, something to look at, like a painting or an ivory box. Something to own and to display. He doesn't want you to be real and to think and to live. He doesn't love you. But I love you. I want you to have your own thoughts and ideas and feelings, even when I hold you in my arms. Miss Bartlett, you wouldn't stop us this time, not if you understood. It's our last chance. Do you understand how lucky people are when they find what's right for them? It's such a blessing, don't you see?
And the fact that I love Cecil and shall be his wife shortly. I suppose that's a detail of no importance.
This tremendous thing has happened between us. And what it means, let me explain. It means that nothing must hinder us ever again. That's what it means. You have to understand that.
S. Comme être heurté par un bolide lancé à vive allure, être précipité dans un lac gelé, fendre la surface de glace et couler, se retrouver en une fraction de seconde au beau milieu d'une forêt enténébrée, aux arbres immenses, sans espoir d'en sortir. Quelle comparaison est la plus juste? Comment la supporte cette violence dans l'instant? Comment on encaisse le choc? Mais surtout, le cerveau peut-il traiter l'information? Plus sûrement, il la refuse. Ou ne réussit pas à l'archiver correctement. Comme, paraît-il, lorsqu'on est placé devant l'imminence de la mort. Et le corps, est-ce qu'il cède? Y a-t-il un effondrement intérieur? Des convulsions, même brèves? Et surtout, comment on revient de cette violence-là? D'ailleurs, en revient-on? N'est-on pas condamné à vivre indéfiniment avec le traumatisme, à le revivre chaque nuit, chaque fois qu'on verra des coquelicots, chaque fois qu'on s'assoira à l'arrière d'une voiture, chaque fois que la chaleur se fera trop étouffante? Votre père vous a abandonné. Ce qui signifie pour elle, il ne veut plus de nous. Il a trouvé quelque chose d'autre, de plus important. Nous n'avons pas pesé assez lourd dans la balance, nous avons compté moins que ce quelque chose d'autre nous sommes devenus subalternes. Nous n'avons pas mérité qu'on continue à s'intéresser à nous. Nous ne représentions pas assez pour qu'on se retienne de nous infliger cette souffrance. Ce qui signifie aussi, la vie d'avant s'est terminée. La vie avec des petits déjeuners, des dîners, des conversations, des courses chez l'épicier, des vacances, des rires, des agacements, de l'ennui, des hivers, des étés, tout ça s'est volatilisé, vaporisé dans l'air. Ça n'est plus que de la poussière qui retombe et que la première brise emportera au loin. Dans la voiture, le silence se fait encore plus pesant. Il écrase tout. Et dans ce silence, Suzanne s'enfonce à son tour dans la colère et la tristesse. Elle en veut éperdument à ce père qui l'a rayé de son existence en un trait de plume, alors que les gens prétendaient qu'il nourrissait pour elle une fierté exagérée et manifestait bien souvent une faiblesse coupable. Elle lui en veut parce qu'elle n'imagine aucune raison valable à son geste, son absolu égoïsme, son imbattable cruauté, encore moins une excuse, non, aucune raison qui vaille. Une pension en Italie, Philippe Besson.
Je trouve que donc c'est très radical. Il faudra des années après pour qu'on comprenne quels ont été les mots échangés à ce moment-là. On saura très longtemps après quels sont les mots qui ont été échangés. Mais sur le moment, c'est dans le regard d'une jeune femme, c'est vu dans les regards d'une jeune femme de 18 ans, et c'est sans parole. Et donc, c'est très compliqué de vivre avec cette histoire sans parole. Et après, les mots seront mis. Et moi, je tenais beaucoup à ça. Et en même temps, ce que j'aime dans la décision de Gabi, prise après le chant de Coquelicot de Fiesel, c'est, ça peut paraître une décision radicale qu'elle prend, mais aussi c'est une décision de femme libre, de femme libérée, d'une certaine manière, de femme indépendante. Les gens me disent « elle est dure, Gabi ». Je dis « non, moi, elle est résolue. Elle est résolue. » Il y a un moment, elle prend acte d'une situation, Gabi, et elle dit « je tiens ferme sur mes deux jambes, j'ai mes deux filles bien accrochées à chacune de mes mains, et je vais vivre ma vie. » La rupture, elle est aussi une forme de libération pour chacun d'entre eux. Bien sûr, ça fait exploser la famille, mais ça renvoie chacun à quelque chose qu'il est profondément. Paul à ce qu'il est profondément, mais Gabi aussi a une forme d'autorité qui est la sienne, c'est une femme d'autorité. C'est quelqu'un qui, et c'était rare dans ces époques-là, dans cette époque-là des années 60, va se prendre en charge, va dire « je dirige ma vie désormais, moi ».
Et pourtant, vous nous dites qu'elle est douce.
Oui, elle était douce, mais ça n'empêche pas. L'autorité, ce n'est pas forcément de la dureté, c'est de la résolution, c'est de l'aplomb, c'est être capable de prendre une décision et de s'y tenir.
Là où peut-être elle est dure, c'est qu'elle ne répond pas au questionnement de ses filles, notamment au questionnement de Suzanne.
Oui, parce qu'elle a pris une décision et qu'elle s'y tient, c'est vrai, mais parce qu'elle en a besoin. C'est ça ou la folie, c'est ça ou le scandale. C'est ça ou des années à vivre avec le regard des autres. Et donc, elle se sauve aussi elle-même. Bien sûr, ça, c'est compliqué pour ses filles, mais c'est ça où elle est perdue. Donc moi, je comprends ça. Je comprends l'idée de dire, voilà, il y a une vérité officielle maintenant et nous y tiendrons. Moi, je la comprends, sa décision.
Et puis lui va rester, on se demande un moment, tiens, comment va-t-il faire pour rentrer à la pension?
Oui, c'est un peu compliqué, d'ailleurs, c'est un peu un périple, parce que même si Fiesel n'est pas très loin de Florence, parce que ça joue que de Florence, il faut quand même redescendre, il faut ensuite rentrer de Florence à la pension, parce que San Donato, c'est quand même à 40 km de Florence. On est dans les années 60, il y a des bus un peu chaotants qui vont de l'une à l'autre, mais donc il va mettre un petit peu de temps à rentrer, mais là aussi, c'est parce que c'est l'épreuve de ça, c'est qu'à un moment, c'est le prix à payer aussi pour revenir à une vie normale.
Et ça, vous ne nous racontez pas le moment où il rentre.
Non.
Pourquoi?
Parce que je le vois comme quelqu'un qui a dû errer et se sentir perdu à ce moment-là. Il est dans une espèce d'écroulement quand même. À la fois, il vient de prendre la décision la plus lourde de sa vie et à la fois, il est renvoyé au néant. Donc, je pense que vous êtes... comme un comme une personne ivre qui erre, comme un ivrogne sur une route de campagne, ou comme un boxeur sonné après un uppercut. Et je pense que vous mettez du temps à vous remettre de ça. Et donc je vois sa démarche et le temps qu'il met pour rentrer à la pension comme ça.
Et puis, de manière assez surprenante, il y a la tenancière qui va les protéger, qui va protéger cet amour homosexuel interdit. Un bon personnage, en fait, qui est là dans l'ombre. Hein.
Sophia, oui, mais là aussi, c'est des gens insoupçonnables. C'est-à-dire que on n'imagine pas comme ça. Mais en même temps, pourtant, dès le début, quand ils arrivent à la pension, Sophia, elle dirige la pension parce qu'elle est veuve, son mari est mort. Et c'est Suzanne qui dit très vite, on a le sentiment que ça lui pose pas de problème que son mari soit mort. parce que du coup, elle est devenue chef, quoi. Elle est devenue patronne et qu'elle est contente finalement à 60 ans d'être en charge. Et donc, moi, ça me la rend extrêmement sympathique. C'est comme ces femmes qui ont vécu dans l'ombre et tout d'un coup, voilà, le mari est plus là et j'existe. Et donc, elle est comme ça. Et puis elle dirige son monde, son petit monde. Hein. Il y a des heures prévues pour les dîners, pour les déjeuners, des heures prévues pour le ménage. Bon, ça tourne quand même très bien. Elle mène tout son petit monde à la baguette. Et en même temps, je la vois comme Madame Verdurin dans Proust. C'est-à-dire que je la vois comme elle peut être un peu débordante, voilà. Mais elle est contente de diriger son petit monde et des gossips et des petites rumeurs et des légendes qu'elle colporte et parce qu'elle est quand même celle qui raconte. Mais vous savez, on dit que Sandro a une femme, a une maîtresse à Florence. Enfin, nous, on ne l'a jamais vue, cette maîtresse. Bon, elle aime bien colporter des ragots. Je l'aime bien, cette idée-là aussi. Et puis, en même temps, oui, quand les choses vont avoir lieu, quand la bascule se fera, elle va bien se comporter, justement, Sophia. Elle va, en tout cas, faire rempart. Tout d'un coup, elle va dire « pas touche ». Face à l'hostilité, face au danger, face au scandale, elle tiendra bon. Et je trouve que c'est des femmes admirables quand même, parce que des personnes de sont admirables d'une manière générale. Parce que c'est rare ceux qui vont contre la meute. C'est rare ceux qui vont contre l'air du temps. Ensuite, c'était beaucoup plus facile pour elles de choisir l'autre camp.
Et de les congédier l'un et l'autre.
Absolument. Et non seulement les congédie pas, mais elle les protège. Ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. Sous ma garde, il ne vous arrivera rien. Et je trouve que c'est beau, cette idée-là, de dire « je veille ».
Puis il y a ce peintre français qui a un petit rôle, mais lui aussi, il veille quelque part, puisque c'est lui qui va poster la lettre, par exemple, du père à Suzanne. C'est lui qui va repérer des choses, il ne dira rien.
Oui, c'est le témoin involontaire. Oui. C'est-à-dire, c'est lui qui va effectivement repérer, quand il remonte à la pension dans l'escalier, il va comprendre qu'il y a quelque chose de sans doute peut-être changé.
Il voit les deux silhouettes, il se dit « c'est un beau tableau ».
Il y a les deux silhouettes qui sont... C'est drôle d'ailleurs, parce que quand nous cherchions la couverture de ce livre-là, on cherchait des images, on a mis longtemps avant de trouver cette couverture magnifique qui a été faite par Mathieu Persan, une illustration de Mathieu Persan, mais on a cherché au départ des photos de Toscane, et à un moment, on avait trouvé une photo où on voyait comme ça un chemin qui serpente, bordé de cyprès, et qui montait sur une colline, et en haut de la colline, il y avait une espèce de maison qui pouvait faire penser à une pension perchée sur une colline. Et je voyais cette photo, je la trouvais très belle, et en regardant plus précisément cette photo, j'ai vu qu'il y avait deux silhouettes de dos. Comme la photo était large, on les voyait pas spontanément, mais si vous regardez en détail, vous voyez ça. Je me suis dit, c'est drôle, parce que je me suis dit, c'est ce que le peintre français a dû voir. Ces deux silhouettes de dos qui s'éloignent, mais ça dit quelque chose. Ces deux hommes qui marchent côte à côte sur le chemin, alors qu'ils devraient pas être ensemble, et que voilà, et il comprend quelque chose. Et il dit rien.
Il y a aussi, on n'en a pas parlé, c'est l'histoire tragique de Sandro, parce que lui aussi a vécu dans sa jeunesse un crime. Donc l'homophobie, elle est là, elle est présente, elle détruit des vies. Là aussi, sa mère va être le personnage qui va tout comprendre et qui va le protéger. Mais il faut partir, en fait. La violence est telle qu'il faut partir.
Bien sûr. La violence homophobe, elle tue. Et si elle ne tue pas, elle blesse très sévèrement. Et dans cette époque-là en particulier, mais encore aujourd'hui. Je vous rappelle que l'époque étant ce qu'elle est, et les dérives du numérique étant ce qu'elles sont, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des hommes à qui on tend des pièges sur des applis de rencontres. On les fait venir dans des endroits en particulier, et puis là, quand ils sont là, on les tabasse, on leur pique leur argent, ou on les tabasse juste pour le plaisir de les tabasser, en se disant ils n'iront pas porter plainte, ou n'iront pas se plaindre, parce qu'ils sont là en secret. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient sur des applis, et donc les rendez-vous nocturnes ou clandestins qu'on leur a fixés, ils n'iront pas en parler, parce qu'ils n'ont pas voulu dire qu'ils venaient rejoindre des hommes quelque part. Ça, c'est le cas encore aujourd'hui, hein, donc il y a en 2026. Bon.
D'autres formes quoi, de violence homophobique.
Bien sûr, ça continue d'exister. Ouais. Toujours un petit peu de mal avec ce terme d'homophobie, parce que... Non mais, je le comprends très bien, il va très bien, mais phobie, ça veut dire peur.
Ouais.
Je ne suis pas sûr que les gens qui sont homophobes aient peur.
Non, vous avez raison.
Ils n'ont pas peur. Non, non. Ils ont envie de canarder, ils ont envie de détester. C'est de la haine, ce n'est pas de la peur.
Sono belle le cose, belli i contorni degli occhi e i contorni del rosso, gli accenti sulle A, lacrime di pagliacci, le ciglia delle dive, le bolle di sapone. Il cerchio del mondo è bello, l'ossigeno delle stelle e la poesia dei ritorni di emigranti e isole cercando l'invisibile, l'appartenenza. È bello il fuoco e il sonno e il buio petulante gola dei fantasmi e il brodo primordiale Padre nostro che cola in questi nomi.
Puis il n'y a même pas une adresse que vous avez, c'est juste le nom d'un village.
Oui.
Ça c'est vrai, vous partez juste sur la trace d'un nom d'un village pour retrouver Sandro.
Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que, la chance que j'ai, qu'on peut avoir, c'est que ce sont des tout petits villages dans un tout petit périmètre. Donc on parle vraiment, Panzano et tout ça, c'est vraiment des endroits où il y a moins de 500 habitants ou 1000 habitants. Enfin voilà, donc.
Mais quand même.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile si on vous dit, alors voilà, il habitait à Bologne ou à Naples.
Et puis vous allez le retrouver. Ce qui est le plus surprenant peut-être, c'est que il vous dira cette phrase. Ça fait si longtemps qu'on attend. C'est extraordinaire, ça.
Oui.
Parce qu'en même temps, quelle douleur il y a dans cette phrase.
Oui. Nous avons attendu si longtemps que quelqu'un vienne. Nous avons attendu si longtemps que quelqu'un vienne. Je trouve cette phrase absolument sublime. Je pense que c'est la plus belle phrase du livre. Elle n'est pas de moi. Non, mais c'est terrible. Je suis d'ailleurs surpris comme ça parce que il y avait ça aussi dans Arrête avec tes mensonges. Je trouve que la plus belle phrase du livre, c'était une phrase que moi, je n'avais pas prononcée. C'est une phrase que prononçait Thomas, quand je lui disais « Mais pourquoi tu m'as choisi ? Pourquoi moi ?» Et il m'avait répondu « Parce que tu partiras et que nous resterons. » Et je trouve que c'est une phrase déchirante, et parce que c'est une phrase sublime, tout y est, tout est dedans. Et là, c'est pareil, nous avons attendu si longtemps que quelqu'un vienne. C'est-à-dire que vous avez toute la mesure du temps, en même temps vous avez la mesure du temps partagé aussi, bon. Et en même temps l'idée que peut-être quand même on allait leur faire un signe, que peut-être on allait pardonner, ou je ne sais pas si c'est du pardon, mais en tout cas qu'il allait se passer quelque chose, et personne n'est venu. Et donc c'est terrible d'être dans ça, d'être si longtemps des parias, et de continuer à espérer que peut-être quelqu'un viendra, que quand même tout n'est pas perdu. C'est-à-dire ne pas abdiquer l'espoir. Ne pas abdiquer l'idée que, oui, peut-être à un moment, on vous dira, non, on vous aime quand même, quoi. C'est terrible d'attendre si longtemps que quelqu'un vienne.
Ça veut dire aussi qu'il y avait l'idée chez Paul de revoir sa famille, de revoir ses filles, en tout cas.
Mais je pense que quiconque est séparé brutalement et logiquement irrémédiablement de sa famille, espère toujours qu'une réconciliation existera, que des retrouvailles se produiront. J'ai beaucoup écrit de livres sur les retrouvailles, parce que c'est quelque chose qui m'importe, mais c'est un espoir infatigable, l'espoir des retrouvailles. Il y a cette idée que vous vous dites « je vais les revoir », et vous vous accrochez à cet espoir de revoir les gens. Et au fond, moi je me dis toujours que c'est ce qui m'anime moi, alors pourtant que Moi, c'est un espoir qui n'a aucune chance de se réaliser, mais que je réalise dans les livres. J'ai souvent raconté cette histoire-là. Moi, je viens d'un temps où beaucoup de mes amis, de mes amoureux sont morts. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, et qu'eux aussi avaient 20 ans ou 25 ans, ils ont disparu de la surface de la Terre parce qu'une maladie mondiale les a emportés. Et je ne les reverrai jamais, et je sais que je ne les reverrai jamais. Et pourtant, je pense à eux tout le temps. C'est le dialogue que j'ai avec à la fin du livre, quand Sandro dit « mais moi je parle aux disparus », je dis « mais moi aussi », comme ça je sais qu'ils sont encore vivants si je leur parle. Et vous parlez aux disparus pour qu'ils soient encore vivants, et vous écrivez des livres sur eux pour qu'ils soient encore en vie. Et c'est ça au fond. Moi j'écris des livres pour parler d'eux avec l'espoir infatigable que le dialogue ne sera jamais rompu. C'est beau cette idée que vous n'avez pas perdu les gens pour toujours, que vous pourrez les retrouver d'une manière ou d'une autre, qu'il y a un moment où ça arrivera. C'est ce qui est dit aussi au tout début du livre sous un autre terme, mais qui est un terme que j'aime énormément, qui est « devenu le temps de la réparation ».
Mais c'est beau que la réparation soit à la fois du côté de votre mère et du côté de Sandro.
Absolument. Mais parce que oui, chacun a ça. C'est qu'il faut que chacun fasse un pas vers l'autre.
C'était Philippe Besson que vous pouvez retrouver à travers son très beau roman « Une pension en Italie » qui vient d'être publié chez Julliard. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur la RTBF Ovio.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.